troisième partie, chapitre 10. En rentrant, je vis sur mon bureau une lettre que le jeune valet de pied de Françoise avait écrite à un de ses amis et qu'il y avait oublié. Depuis que ma mère était absente, il ne reculait devant aucun sans gêne. Je fus plus coupable d'avoir celui de lire la lettre sans enveloppe, largement étalée, et qui, c'était ma seule excuse, avait l'air de s'offrir à moi. Cher ami et cousin, j'espère que la santé va toujours bien et qu'il en est de même pour toute la petite famille, particulièrement pour mon jeune filleul Joseph, dont je n'ai pas encore le plaisir de connaître, mais dont je préfère à vous tous comme étant mon filleul. Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Sur leur reste sacré, ne portons pas les mains. D'ailleurs, cher ami et cousin, qui te dit que demain, toi et ta chère femme, ma cousine Marie, vous ne serez pas précipités tous deux jusqu'au fond de la mer, comme le matelot attaché en haut du grand mât, car cette vie n'est qu'une vallée obscure. Cher ami, il faut te dire que ma principale occupation, de ton étonnement, j'en suis certain, est maintenant la poésie, que j'aime avec délice, car il faut bien passer le temps. Aussi, cher ami, ne sois pas trop surpris si je ne suis pas encore répondu à ta dernière lettre. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Comme tu le sais, la mère de madame a trépassé dans des souffrances inexprimables qui l'ont assez fatiguée, car elle a vu jusqu'à 3 médecins. Le jour de ses obsèques fut un beau jour, car toutes les relations de monsieur étaient venues en foule, ainsi que plusieurs ministres. On a mis plus de 2 heures pour aller au cimetière, ce qui vous fera tous ouvrir de grands yeux dans votre village, car on n'en fera certainement pas autant pour la mère Michu. Ainsi, ma vie ne sera plus qu'un long sanglot. Je m'amuse énormément à la motocyclette dont j'ai appris dernièrement. Que diriez-vous, mes chers amis, si j'arrivais ainsi à toute vitesse aux écorces? Mais là-dessus, je ne me tairai pas plus, car je sens que l'ivresse du malheur emporte sa raison. Je fréquente la duchesse de Guermantes, des personnes que tu as jamais entendues même le nom dans nos ignorants pays. Aussi, c'est avec plaisir que j'enverrai les livres de Racine, de Victor Hugo, de pages choisies de Chêne Dolé, d'Alfred de Musset, car je voudrais guérir le pays qui m'a donné le jour de l'ignorance qui mène fatalement jusqu'au crime. Je ne vois plus rien à te dire, et t'envoie, comme le pélican lassé d'un long voyage, mes bonnes salutations, ainsi qu'à ta femme, à mon filleul et à ta sœur Rose. Puisse-t-on ne pas dire d'elle? Et Rose, elle n'a vécu que ce que vivent les roses, comme l'a dit Victor Hugo, le sonnet d'Arvers, Alfred de Musset, tous ces grands génies qu'on a fait à cause de cela mourir sur les flammes du bûcher, comme Jeanne d'Arc. À bientôt, ta prochaine missive, reçois mes baisers, comme ceux d'un frère. Périgot, Joseph. Nous sommes attirés par toute vie qui nous représente quelque chose d'inconnu, par une dernière illusion à détruire. Malgré cela, les mystérieuses paroles, grâce auxquelles M. de Charlus m'avait amené à imaginer la princesse de Guermantes comme un être extraordinaire et différent de ce que je connaissais, ne suffisent pas à expliquer la stupéfaction où je fus, bientôt suivi de la crainte d'être victime d'une mauvaise farce machinée par quelqu'un qui eût voulu me faire jeter à la porte d'une demeure où j'irais sans être invité. Quand, environ 2 mois après, mon dîner chez la duchesse, et tandis que celle-ci était à Cannes, ayant ouvert une enveloppe dont l'apparence ne m'avait averti de rien d'extraordinaire, je lus ces mots imprimés sur une carte. La princesse de Guermantes, née duchesse en Bavière, sera chez elle le... Sans doute, être invitée chez la princesse de Guermantes n'était peut-être pas, au point de vue mondain, quelque chose de plus difficile que dîner chez la duchesse. Et mes faibles connaissances héraldiques m'avaient appris que le titre de prince n'est pas supérieur à celui de duc. Puis, je me disais que l'intelligence d'une femme du monde ne peut pas être d'une essence aussi hétérogène à celle de ses congénères que le prétendait M. de Charlus, et d'une essence si hétérogène à celle d'une autre femme. Mais mon imagination, semblable à Elstir en train de rendre un effet de perspective sans tenir compte des notions de physique qu'il pouvait par ailleurs posséder, me peignait non ce que je savais, mais ce qu'elle voyait. Ce qu'elle voyait, c'est-à-dire ce que lui montrait le nom. Or, même quand je ne connaissais pas la duchesse, le nom de Guermantes, précédé du titre de princesse, comme une note ou une couleur ou une quantité, profondément modifiée des valeurs environnantes par le signe mathématique ou esthétique qui l'affecte, m'avait toujours évoqué quelque chose de tout différent. Avec ce titre, on se trouve surtout dans les mémoires du temps de Louis XIII et de Louis XIV, de la cour d'Angleterre, de la reine d'Écosse, de la duchesse d'Aumale. Et je me figurais l'hôtel de la princesse de Guermantes comme plus ou moins fréquenté par la duchesse de Longueville et par le grand Condé, desquels la présence rendait bien peu vraisemblable que j'y pénétrasse jamais. Beaucoup de choses que M. de Charlus m'avait dites avaient donné un vigoureux coup de fouet à mon imagination, et, faisant oublier à celle-ci combien la réalité l'avait déçue chez la duchesse de Guermantes, il en est des noms, des personnes comme des noms des pays, l'avait aiguillée vers la cousine d'Oriane. Au reste, M. de Charlus ne me trompa quelque temps sur la valeur et la variété imaginaire des gens du monde que parce qu'il s'y trompait lui-même. Et cela peut-être parce qu'il ne faisait rien, n'écrivait pas, ne peignait pas, ne lisait même rien d'une manière sérieuse et approfondie. Mais, supérieur aux gens du monde, de plusieurs degrés, si c'est d'eux et de leur spectacle qu'il tirait la matière de sa conversation, il n'était pas pour cela compris par eux. Parlant en artiste, il pouvait tout au plus dégager le charme fallacieux des gens du monde. Mais le dégager pour les artistes seulement, à l'égard desquels il eût pu jouer le rôle du renne envers les Esquimaux, ce précieux animal arrache pour eux sur des roches désertiques des lichens, des mousses qu'ils ne sauraient ni découvrir ni utiliser, mais qui, une fois digérées par le renne, deviennent pour les habitants de l'extrême nord un aliment assimilable. À quoi j'ajouterais que ces tableaux que M. de Charlus faisait du monde étaient animés de beaucoup de vie, par le mélange de ses haines féroces et de ses dévotes sympathies. Les haines dirigées surtout contre les jeunes gens, l'adoration excitée principalement par certaines femmes. Si parmi celles-ci la princesse de Guermantes était placée par M. de Charlus sur le trône le plus élevé, ses mystérieuses paroles sur « l'inaccessible palais d'Aladin » qu'habitait sa cousine ne suffisent pas à expliquer ma stupéfaction. Malgré ce qui tient aux divers points de vue subjectifs dont j'aurai à parler dans les grossissements artificiels, il n'en reste pas moins qu'il y a quelque réalité objective dans tous ces êtres, et par conséquent, différence entre eux. Comment d'ailleurs en serait-il autrement? L'humanité que nous fréquentons et qui ressemble si peu à nos rêves est pourtant la même que, dans les mémoires, dans les lettres de gens remarquables, nous avons vu décrites et que nous avons souhaité de connaître. Le vieillard le plus insignifiant avec qui nous dînons est celui dont, dans un livre sur la guerre de 70, nous avons lu avec émotion la fière lettre au prince Frédéric Charles. On s'ennuie à dîner parce que l'imagination est absente, et parce qu'elle nous y tient compagnie, on s'amuse avec un livre. Mais c'est des mêmes personnes qu'il est question. Nous aimerions avoir connu Madame de Pompadour, qui protégea si bien les arts, et nous nous serions autant ennuyés auprès d'elle qu'auprès des modernes égéries, chez qui nous ne pouvons nous décider à retourner tant elles sont médiocres. Il n'en reste pas moins que ces différences subsistent. Les gens ne sont jamais tout à fait pareils les uns aux autres. Leur manière de se comporter à notre égard, on pourrait dire à amitié égale, trahit des différences qui, en fin de compte, font compensation. Quand je connus Madame de Montmorency, elle aima à me dire des choses désagréables, mais si j'avais besoin d'un service, elle jetait pour l'obtenir avec efficacité tout ce qu'elle possédait de crédit, sans rien ménager. Tandis que telle autre, comme Madame de Guermantes, n'eût jamais voulu me faire de peine, ne disait de moi que ce qui pouvait me faire plaisir, me comblait de toutes les amabilités qui formaient le riche train de vie morale des Guermantes, mais, si je lui avais demandé un rien en dehors de cela, n'eût pas fait un pas pour me le procurer, comme en ces châteaux où on a à sa disposition une automobile, un valet de chambre, mais où il est impossible d'obtenir un verre de cidre, non prévu dans l'ordonnance des fêtes. Laquelle était pour moi la véritable amie de Madame de Montmorency, si heureuse de me froisser et toujours prête à me servir, de Madame de Guermantes, souffrant du moindre déplaisir qu'on m'eût causé et incapable du moindre effort pour m'être utile. D'autre part, on disait que la duchesse de Guermantes parlait seulement de frivolité, et sa cousine, avec l'esprit le plus médiocre, de choses toujours intéressantes. Les formes d'esprit sont si variées, si opposées, non seulement dans la littérature, mais dans le monde, qu'il n'y a pas que Baudelaire et Mérimée qui ont le droit de se mépriser réciproquement. Ces particularités forment, chez toutes les personnes, un système de regard, de discours, d'action, si cohérent, si despotique, que quand nous sommes en leur présence, ils nous semblent supérieurs au reste. Chez Madame de Guermantes, ces paroles, déduites comme un théorème de son genre d'esprit, me paraissaient les seules qu'on aurait dû dire. Et j'étais, au fond, de son avis, quand elle me disait que Madame de Montmorency était stupide et avait l'esprit ouvert à toutes les choses qu'elle ne comprenait pas. Ou quand, apprenant une méchanceté d'elle, la duchesse me disait « C'est cela que vous appelez une bonne femme. C'est ce que j'appelle un monstre. » Mais cette tyrannie de la réalité qui est devant nous, cette évidence de la lumière de la lampe qui fait pâlir l'aurore déjà lointaine comme un simple souvenir, disparaissait quand j'étais loin de Madame de Guermantes, et qu'une dame différente me disait, en se mettant de plain pied avec moi et jugeant la duchesse placée forte au-dessous de nous, « Oriane ne s'intéresse au fond à rien ni à personne. » Et même, ce qui, en présence de Madame de Guermantes, eût semblé impossible à croire, tant elle-même proclamait le contraire, « Oriane est snob. » Aucune mathématique ne nous permettant de convertir Madame d'Arpajon et Madame de Montpensier en quantités homogènes, il m'eût été impossible de répondre si on me demandait laquelle me semblait supérieure à l'autre. Or, parmi les traits particuliers au salon de la princesse de Guermantes, le plus habituellement cité était un certain exclusivisme, dû en partie à la naissance royale de la princesse, et surtout le rigorisme, presque fossile, des préjugés aristocratiques du prince. Préjugés que, d'ailleurs, le duc et la duchesse ne s'étaient pas fait faute de railler devant moi, et qui, naturellement, devaient me faire considérer comme plus invraisemblable encore que m'eût invité cet homme, qui ne comptait que les altesses et les ducs, et à chaque dîner. Faisait une scène parce qu'il n'avait pas eu à table la place à laquelle il aurait eu droit sous Louis XIV. Place que, grâce à son extrême érudition en matière d'histoire et de généalogie, il était seul à connaître. À cause de cela, beaucoup de gens du monde tranchaient en faveur du duc et de la duchesse les différences qui les séparaient de leurs cousins. « Le duc et la duchesse sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus intelligents. Ils ne s'occupent pas, comme les autres, que du nombre de quartiers. Leur salon est de 300 ans en avance sur celui de leurs cousins. » Étaient des phrases usuelles dont le souvenir me faisait maintenant frémir en regardant la carte d'invitation à laquelle il donnait beaucoup plus de chances de m'avoir été envoyé par un mystificateur. Si encore le duc et la duchesse de Guermantes n'avaient pas été à Cannes, j'aurais pu tâcher de savoir par eux si l'invitation que j'avais reçue était véritable. Ce doute où j'étais n'est pas même dû, comme je m'en étais un moment flatté, au sentiment qu'un homme du monde n'éprouverait pas et qu'en conséquence un écrivain, appartint-il en dehors de cela à la caste des gens du monde, devrait reproduire afin d'être bien objectif et de peindre chaque classe différemment. J'ai en effet trouvé dernièrement dans un charmant volume de mémoire la notation d'incertitudes analogues à celles par lesquelles me faisait passer la carte d'invitation de la princesse. Georges et moi, ou Élie et moi, je n'ai pas le livre sous la main pour vérifier, nous grillions si fort d'être admis dans le salon de Madame de Desserts qu'ayant reçu d'elle une invitation, nous crûmes prudents, chacun de notre côté, de nous assurer que nous n'étions pas les dupes de quelque poisson d'avril. Or, le narrateur n'est autre que le comte d'Haussonville, celui qui épousa la fille du duc de Broglier, et l'autre jeune homme qui, de son côté, va s'assurer s'il n'est pas l'objet d'une mystification, est, selon qu'il s'appelle Georges ou Élie, l'un ou l'autre des deux inséparables amis de M. d'Haussonville, M. d'Harcourt ou le prince de Chalais. Le jour où devait avoir lieu la soirée chez la princesse de Guermantes, j'appris que le duc et la duchesse étaient revenus à Paris depuis la veille. Le bal de la princesse ne les eut pas fait revenir, mais un de leurs cousins était fort malade, et puis le duc tenait beaucoup à une redoute qui avait lieu cette nuit-là, et où lui-même devait paraître en Louis XI, et sa femme en Isabeau de Bavière. Et je résolus d'aller la voir le matin. Mais, sorti de bonne heure, il n'était pas encore rentré. Je guettai d'abord d'une petite pièce, que je croyais un bon poste de vigie, l'arrivée de la voiture. En réalité, j'avais fort mal choisi mon observatoire, d'où je distinguais à peine notre cour. Mais j'en aperçus plusieurs autres, ce qui, sans utilité pour moi, me divertit un moment. Ce n'est pas à Venise seulement qu'on a de ces points de vue sur plusieurs maisons à la fois qui ont tenté les peintres, mais à Paris tout aussi bien. Je ne dis pas à Venise au hasard. C'est à ces quartiers pauvres que font penser certains quartiers pauvres de Paris, le matin, avec leurs hautes cheminées évasées, auxquelles le soleil donne les roses les plus vifs, les rouges les plus clairs. C'est tout un jardin qui fleurit au-dessus des maisons, et qui fleurit en nuances si variées qu'on dirait, planté sur la ville, le jardin d'un amateur de tulipes de Delphes ou de Harlem. D'ailleurs, l'extrême proximité des maisons aux fenêtres opposées sur une même cour y fait de chaque croisée le cadre où une cuisinière rêvasse en regardant à terre, où plus loin une jeune fille se laisse peigner les cheveux par une vieille à figure, à peine distincte dans l'ombre, de sorcière. Ainsi, chaque cour fait pour le voisin de la maison, en supprimant le bruit par son intervalle, en laissant voir les gestes silencieux dans un rectangle placé sous verre par la clôture des fenêtres, une exposition de 100 tableaux hollandais juxtaposés. Certes, de l'hôtel de Guermantes, on n'avait pas le même genre de vue, mais de curieuses aussi, surtout de l'étrange point trigonométrique où je m'étais placé et où le regard n'était arrêté par rien, jusqu'aux hauteurs lointaines que formaient les terrains relativement vagues qui précédaient, étant fort en pente, l'hôtel de la princesse de Silistrie et de la marquise de Plassac, cousine très noble de monsieur de Guermantes et que je ne connaissais pas. Jusqu'à cet hôtel, qui était celui de leur père, monsieur de Bréquigny, rien que des corps de bâtiments peu élevés, orientés des façons les plus diverses et qui, sans arrêter la vue, prolongeaient la distance de leurs plans obliques. La tourelle en tuiles rouges de la remise où le marquis de Fricourt garait ses voitures se terminait bien par une aiguille plus haute, mais si mince qu'elle ne cachait rien, et faisait penser à ces jolies constructions anciennes de la Suisse qui s'élancent isolées au pied d'une montagne. Tous ces points, vagues et divergents, où se reposaient les yeux, faisaient paraître plus éloignés que s'il avait été séparé de nous par plusieurs rues ou de nombreux contreforts, l'hôtel de Madame de Plassac, en réalité assez voisin, mais chimériquement éloigné comme un paysage alpestre. Quand ses larges fenêtres carrées, éblouies de soleil comme des feuilles de cristal de roche, étaient ouvertes pour le ménage, on avait à suivre aux différents étages les valets de pied, impossibles à bien distinguer, mais qui battaient des tapis, le même plaisir qu'à voir, dans un paysage de Turner ou d'Elstir, un voyageur en diligence ou un guide à différents degrés d'altitude du Saint-Gothard. Mais de ce point de vue où je m'étais placé, j'aurais risqué de ne pas voir rentrer monsieur ou madame de Guermantes, de sorte que, lorsque dans l'après-midi je fus libre de reprendre mon guet, je me mis simplement sur l'escalier, d'où l'ouverture de la porte cochère ne pouvait passer inaperçue pour moi. Et ce fut dans l'escalier que je me postai, bien que n'y apparussent pas, si éblouissantes avec leurs valets de pied rendus minuscules par l'éloignement et en train de nettoyer, les beautés alpestres de l'hôtel de Bréquigny et Trême. Or, cette attente sur l'escalier devait avoir pour moi des conséquences si considérables et me découvrir un paysage non plus turnérien, mais moral, si important, qu'il est préférable d'en retarder le récit de quelques instants, en le faisant précéder d'abord par celui de ma visite aux Guermantes quand je sus qu'ils étaient rentrés. Ce fut le duc seul qui me reçut dans sa bibliothèque. Au moment où j'y entrai, sortit un petit homme aux cheveux tout blancs, l'air pauvre, avec une petite cravate noire, comme en avait le notaire de Combray et plusieurs amis de mon grand-père, mais d'un aspect plus timide, et qui, m'adressant de grands saluts, ne voulut jamais descendre avant que je fusse passé. Le duc lui cria de la bibliothèque quelque chose que je ne compris pas, et l'autre répondit avec de nouveaux saluts adressés à la muraille, car le duc ne pouvait le voir, mais répétait tout de même sans fin, comme ces inutiles sourires des gens qui causent avec nous par le téléphone. Il avait une voix de fossé et me resalua avec une humilité d'homme d'affaires. Et ce pouvait d'ailleurs être un homme d'affaires de Combray, tant il avait le genre provincial, suranné et doux des petites gens, des vieillards modestes de là-bas. « Vous verrez Oriane tout à l'heure, » me dit le duc quand je fus entré. Comme Swann doit venir tout à l'heure lui apporter les épreuves de son étude sur les monnaies de l'ordre de Malte, et, ce qui est pis, une photographie immense où il a fait reproduire les deux faces de ses monnaies, Oriane a préféré s'habiller d'abord, pour pouvoir rester avec lui jusqu'au moment d'aller dîner. Nous sommes déjà encombrés d'affaires à ne pas savoir où les mettre, et je me demande où nous allons fourrer cette photographie. Mais j'ai une femme trop aimable, qui aime trop à faire plaisir. Elle a cru que c'était gentil de demander à Swann de pouvoir regarder les uns à côté des autres tous ces grands maîtres de l'ordre dont il a trouvé les médailles à Rhodes. Car je vous disais Malte, c'est Rhodes, mais c'est le même ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Dans le fond, elle ne s'intéresse à cela que parce que Swann s'en occupe. Notre famille est très mêlée à toute cette histoire. Même encore aujourd'hui, mon frère, que vous connaissez, est un des plus hauts dignitaires de l'ordre de Malte. Mais j'aurais parlé de tout cela à Oriane, elle ne m'aurait seulement pas écouté. En revanche, il a suffi que les recherches de Swann sur les Templiers, car c'est inouï la rage des gens d'une religion à étudier celle des autres, les conduites à l'histoire des chevaliers de Rhodes, héritiers des Templiers, pour qu'aussitôt Oriane veuille voir les têtes de ces chevaliers. Ils étaient de fort petits garçons à côté des Lusignans, rois de Chypre, dont nous descendons en ligne directe. Mais comme jusqu'ici Swann ne s'est pas occupé d'eux, Oriane ne veut rien savoir sur les Lusignans. Je ne pus tout de suite dire au duc pourquoi j'étais venue. En effet, quelques parentes ou amies, comme Madame de Silistrie et la Duchesse de Montrose, vinrent pour faire une visite à la Duchesse, qui recevait souvent avant le dîner, et, ne la trouvant pas, restèrent un moment avec le duc. La première de ces dames, la Princesse de Silistrie, habillée avec simplicité, sèche, mais l'air aimable, tenait à la main une canne. Je craignis d'abord qu'elle ne fût blessée ou infirme. Elle était au contraire fort alerte. Elle parla avec tristesse au duc d'un cousin germain à lui, pas du côté Guermantes, mais plus brillant encore, s'il était possible, dont l'état de santé, très atteint depuis quelque temps, s'était subitement aggravé. Mais il était visible que le duc, tout en compatissant au sort de son cousin et en répétant « Pauvre mama, c'est un si bon garçon !» portait un diagnostic favorable. En effet, le dîner auquel devait assister le duc l'amusait. La grande soirée chez la princesse de Guermantes ne l'ennuyait pas, mais surtout il devait aller à 1 heure du matin, avec sa femme, à un grand souper et bal costumé, en vue duquel un costume de Louis XI pour lui et d'Isabeau de Bavière pour la duchesse était tout prêt. Et le duc entendait ne pas être troublé dans ses divertissements multiples par la souffrance du bon amanien d'Osmond. Deux autres dames, porteuses de canne, Madame de Plassac et Madame de Trême, toutes deux filles du comte de Bréquigny, vinrent ensuite faire visite à Bazin, et déclarèrent que l'état du cousin Mama ne laissait plus d'espoir. Après avoir haussé les épaules, et pour changer de conversation, le duc leur demanda si elles allaient le soir chez Marie-Gilbert. Elles répondirent que non, à cause de l'état d'Amanien qui était à toute extrémité, et même elle s'était décommandée du dîner où allait le duc, et duquel elles lui énumérèrent les convives, le frère du roi Théodose, l'infante Marie-Conception, etc. Comme le marquis d'Osmond était leur parent à un degré moins proche qu'il n'était de Bazin, leur défection parut au duc une espèce de blâme indirecte de sa conduite. Aussi, bien que descendu des hauteurs de l'hôtel de Bréquigny pour voir la duchesse, ou plutôt pour lui annoncer le caractère alarmant et incompatible pour les parents avec les réunions mondaines de la maladie de leur cousin, ne restèrent-elles pas longtemps, et, munies de leurs bâtons d'alpinistes, Walpurge et Dorothée, tels étaient les prénoms des deux sœurs, reprirent la route escarpée de leur fête. Je n'ai jamais pensé à demander aux Guermantes à quoi correspondaient ces cannes, si fréquentes dans un certain faubourg Saint-Germain. Peut-être, considérant toute la paroisse comme leur domaine et n'aimant pas prendre de fiacre, faisaient-elles de longues courses, pour lesquelles quelque ancienne fracture, due à l'usage immodéré de la chasse et des chutes de cheval qu'ils comportent souvent, ou simplement des rhumatismes provenant de l'humidité de la rive gauche et des vieux châteaux, leur rendaient la canne nécessaire. Peut-être n'était-elle pas partie dans le quartier en expédition si lointaine, et seulement descendue dans leur jardin, peu éloigné de celui de la duchesse, pour faire la cueillette des fruits nécessaires aux compotes, venait-elle, avant de rentrer chez elle, dire bonsoir à Madame de Guermantes, chez laquelle elle n'allait pourtant pas jusqu'à apporter un sécateur ou un arrosoir. Le duc parut touché que je fusse venu chez eux le jour même de son retour. Mais sa figure se rembrunit quand je lui eus dit que je venais demander à sa femme de s'informer si sa cousine m'avait réellement invité. Je venais d'effleurer une de ces sortes de services que monsieur et madame de Guermantes n'aimaient pas rendre. Le duc me dit qu'il était trop tard, que si la princesse ne m'avait pas envoyé d'invitation, il aurait l'air d'en demander une, que déjà ses cousins lui en avaient refusé une fois, et qu'il ne voulait plus, ni de près ni de loin, avoir l'air de se mêler de leur liste, de s'immiscer. enfin qu'il ne savait même pas si lui et sa femme, qui dînaient en ville, ne rentreraient pas aussitôt après chez eux. Que dans ce cas, leur meilleure excuse de n'être pas allée à la soirée de la princesse était de lui cacher leur retour à Paris. Que certainement, sans cela, ils se seraient au contraire empressés de lui faire connaître en lui envoyant un mot ou un coup de téléphone à mon sujet. Et certainement trop tard, car en toute hypothèse, les listes de la princesse étaient certainement closes. « Vous n'êtes pas mal avec elle !» me dit-il d'un air soupçonneux. Les Guermantes, craignant toujours de ne pas être au courant des dernières brouilles, et qu'on ne cherchât à se raccommoder sur leur dos. Enfin, comme le duc avait l'habitude de prendre sur lui toutes les décisions qui pouvaient sembler peu aimables, « Tenez, mon petit !» me dit-il tout à coup, comme si l'idée lui en venait brusquement à l'esprit. « J'ai même envie de ne pas dire du tout à Oriane que vous m'avez parlé de cela. Vous savez comme elle est aimable. De plus, elle vous aime énormément. Elle voudrait envoyer chez sa cousine malgré tout ce que je pourrais lui dire. Et si elle est fatiguée après dîner, il n'y aura plus d'excuses. Elle sera forcée d'aller à la soirée. Non, décidément, je ne lui en dirai rien. Du reste, vous allez la voir tout à l'heure. Pas un mot de cela, je vous prie. Si vous vous décidez à aller à la soirée, je n'ai pas besoin de vous dire quelle joie nous aurons de passer la soirée avec vous. » Les motifs d'humanité sont trop sacrés pour que celui devant qui on les invoque ne s'incline pas devant eux, qu'il les croit sincères ou non. Je ne voulus pas avoir l'air de mettre un instant en balance mon invitation et la fatigue possible de Madame de Guermantes, et je promis de ne pas lui parler du but de ma visite, exactement comme si j'avais été dupe de la petite comédie que m'avait jouée M. de Guermantes. Je demandai au duc s'il croyait que j'avais chance de voir chez la princesse Madame de Stermaria. « Mais non, me dit-il d'un air de connaisseur, je sais le nom que vous dites pour le voir dans les annuaires des clubs. Ce n'est pas du tout le genre de monde qui va chez Gilbert. Vous ne verrez là que des gens excessivement comme il faut et très ennuyeux, des duchesses portant des titres qu'on croyait éteints et qu'on a ressortis pour la circonstance, tous les ambassadeurs, beaucoup de cobourgs, altesses étrangères, mais n'espérez pas l'ombre de Stermaria. Gilbert serait malade, même de votre supposition. Tenez, vous qui aimez la peinture, il faut que je vous montre un superbe tableau que j'ai acheté à mon cousin, en partie en échange des Elstir, que décidément nous n'aimions pas. On me l'a vendu pour un Philippe de Champagne, mais moi, je crois que c'est encore plus grand. Voulez-vous ma pensée? Je crois que c'est un Velasquez et de la plus belle époque, me dit le duc en me regardant dans les yeux, soit pour connaître mon impression, soit pour l'accroître. Un valet de pied entra. « Madame la duchesse fait demander à monsieur le duc si monsieur le duc veut bien recevoir monsieur Swann, parce que madame la duchesse n'est pas encore prête. »« Faites entrer, monsieur Swann, » dit le duc, après avoir regardé et vu à sa montre qu'il avait lui-même quelques minutes encore avant d'aller s'habiller. « Naturellement, ma femme, qui lui a dit de venir, n'est pas prête. » Inutile de parler devant Swann de la soirée de Marie-Gilbert, me dit le duc. Je ne sais pas s'il est invité. Gilbert l'aime beaucoup parce qu'il le croit petit-fils naturel du duc de Berry. C'est toute une histoire. Sans ça, vous pensez, mon cousin qui tombe en attaque quand il voit un juif à son maître. Mais enfin, maintenant, ça s'aggrave de l'affaire Dreyfus. Swann aurait dû comprendre qu'il devait, plus que tout autre, couper tout câble avec ces gens-là. Or, tout au contraire, il tient des propos fâcheux. » Le duc rappela le valet de pied pour savoir si celui qu'il avait envoyé chez le cousin d'Osmond était revenu. En effet, le plan du duc était le suivant. Comme il croyait, avec raison, son cousin mourant, il tenait à faire prendre des nouvelles avant la mort, c'est-à-dire avant le deuil forcé. Une fois couvert par la certitude officielle qu'Amanien était encore vivant Il ficherait le camp à son dîner, à la soirée du prince, à la redoute où il serait en Louis XI et où il avait le plus piquant rendez-vous avec une nouvelle maîtresse et ne ferait plus prendre de nouvelles avant le lendemain, quand les plaisirs seraient finis. Alors, on prendrait le deuil s'il avait trépassé dans la soirée. « Non, monsieur le duc, il n'est pas encore revenu. »« Cré nom de Dieu ! On ne fait jamais ici les choses qu'à la dernière heure !» dit le duc à la pensée qu'Amanien avait eu le temps de « claquer » pour un journal du soir et de lui faire rater sa redoute. Il fit demander le temps où il n'y avait rien. « Je n'avais pas vu Swann depuis très longtemps. » Je me demandais un instant si, autrefois, il coupait sa moustache ou n'avait pas les cheveux en brosse, car je lui trouvais quelque chose de changé. C'était seulement qu'il était en effet très changé, parce qu'il était très souffrant. Et la maladie produit dans le visage des modifications aussi profondes que se mettre à porter la barbe ou changer sa raie de place. La maladie de Swann était celle qui avait emporté sa mère et dont elle avait été atteinte précisément à l'âge qu'il avait. Nos existences sont en réalité, par l'hérédité, aussi pleines de chiffres cabalistiques, de sorts jetés, que s'il y avait vraiment des sorcières. Et comme il y a une certaine durée de la vie pour l'humanité en général, il y en a une pour les familles en particulier, c'est-à-dire dans les familles pour les membres qui se ressemblent. Swann était habillé avec une élégance qui, comme celle de sa femme, associait à ce qu'il était ce qu'il avait été. Serré dans une redingote gris-perle qui faisait valoir sa haute taille, svelte, ganté de gants blancs rayés de noir, il portait un tube gris d'une forme évasée que De Lion ne faisait plus que pour lui. Pour le prince de Sagan, pour M. de Charlus, pour le marquis de Modène, pour M. Charles Haas et pour le comte Louis de Turenne. Je fus surpris du charmant sourire et de l'affectueuse poignée de main avec lesquelles il répondit à mon salut, car je croyais qu'après si longtemps, il ne m'aurait pas reconnu tout de suite. Je lui dis mon étonnement. Il l'accueillit avec des éclats de rire, un peu d'indignation, et une nouvelle pression de la main, comme si c'était mettre en doute l'intégrité de son cerveau ou la sincérité de son affection, que supposer qu'il ne me reconnaissait pas. Et c'est pourtant ce qui était. Il ne m'identifia, je l'ai su longtemps après, que quelques minutes plus tard, en entendant rappeler mon nom. Mais nul changement dans son visage, dans ses paroles, dans les choses qu'il me dit, ne trahirent la découverte qu'une parole de M. de Guermantes lui fit faire, tant il avait de maîtrise et de sûreté dans le jeu de la vie mondaine. Il y apportait d'ailleurs cette spontanéité dans les manières et ses initiatives personnelles, même en matière d'habillement, qui caractérisait le genre des Guermantes. C'est ainsi que le salut que m'avait fait, sans me reconnaître, le vieux clubman n'était pas le salut froid et raide de l'homme du monde purement formaliste, mais un salut tout rempli d'une amabilité réelle, d'une grâce véritable, comme la duchesse de Guermantes, par exemple, en avait, allant jusqu'à vous sourire la première avant que vous l'eussiez saluée si elle vous rencontrait. Par opposition au salut plus mécanique, habituels aux dames du faubourg Saint-Germain. C'est ainsi encore que son chapeau, que selon une habitude qui tendait à disparaître, il posa par terre, à côté de lui, était doublé de cuir vert, ce qui ne se faisait pas d'habitude, mais parce que c'était, à ce qu'il disait, beaucoup moins salissant, en réalité parce que c'était fort saillant. Tenez, Charles, vous qui êtes un grand connaisseur, venez voir quelque chose. Après ça, mes petits, je vais vous demander la permission de vous laisser ensemble un instant, pendant que je vais passer un habit. Du reste, je pense qu'Oriane ne va pas tarder. » Et il montra son Velasquez à Swann. « Mais il me semble que je connais ça. fit Swann avec la grimace des gens souffrants pour qui parler est déjà une fatigue. « Oui, » dit le duc, rendu sérieux par le retard que mettait le connaisseur à exprimer son admiration. « Vous l'avez probablement vu, c'est Gilbert. »« Ah, en effet, je me rappelle. » « Qu'est-ce que vous croyez que c'est ?»« Eh bien, si c'était chez Gilbert, c'est probablement un de vos ancêtres, » dit Swann avec un mélange d'ironie et de déférence envers une grandeur qu'il eût trouvée impolie et ridicule de méconnaître, mais dont il ne voulait, par bon goût, parler qu'en se jouant. « Mais bien sûr, » dit rudement le duc, « c'est Boson, je ne sais plus quel numéro, de Guermantes. » « Mais ça, je m'en fous. Vous savez que je ne suis pas aussi féodal que mon cousin. J'ai entendu prononcer le nom de Rigaud, de Mignard, même de Velasquez. » dit le duc en attachant sur Swann un regard et d'inquisiteur et de tortionnaire pour tâcher à la fois de lire dans sa pensée et d'influencer sa réponse. « Enfin !» conclut-il, car quand on l'a mené à provoquer artificiellement une opinion qu'il désirait, il avait la faculté, au bout de quelques instants, de croire qu'elle avait été spontanément émise. « Voyons, pas de flatterie. Croyez-vous que ce soit d'un des grands pontifes que je viens de dire ?»« Non, » dit Swann. « Mais alors, enfin, moi, je n'y connais rien. Ce n'est pas à moi de décider de qui est ce crouton-là. » « Mais vous, un dilettante, un maître en la matière, à qui l'attribuez-vous ? Vous êtes assez connaisseur pour avoir une idée. À qui l'attribuez-vous ? » Swann hésita un instant devant cette toile que visiblement il trouvait affreuse. « À la malveillance !» répondit-il en riant au duc, lequel ne put laisser échapper un mouvement de rage. Quand elle fut calmée, « Vous êtes bien gentils tous les deux. Attendez Oriane un instant. Je vais mettre ma queue de morue et je reviens. Je vais faire dire à ma bourgeoise que vous l'attendez tous les deux. » Je causai un instant avec Swann de l'affaire Dreyfus et je lui demandai comment il se faisait que tous les Guermantes fussent anti-Dreyfusards. « D'abord, parce qu'au fond, tous ces gens-là sont antisémites. » répondit Swann, qui savait bien pourtant, par expérience, que certains ne l'étaient pas, mais qui, comme tous les gens qui ont une opinion ardente, aimait mieux, pour expliquer que certaines personnes ne la partageassent pas, leur supposer une raison préconçue, un préjugé, contre lequel il n'y avait rien à faire, plutôt que des raisons qui se laisseraient discuter. D'ailleurs, arrivé au terme prématuré de sa vie, comme une bête fatiguée qu'on harcèle, il exécrait ses persécutions et rentrait au bercail religieux de ses pères. « Pour le prince de Guermantes, dis-je, il est vrai, on m'avait dit qu'il était antisémite. Celui-là, je n'en parle même pas. C'est au point que, quand il était officier, ayant une rage de dents épouvantable, il a préféré rester à souffrir plutôt que de consulter le seul dentiste de la région, qui était juif, et que plus tard, il a laissé brûler une aile de son château, où le feu avait pris, parce qu'il aurait fallu demander des pompes au château voisin qui est au Rothschild. « Est-ce que vous allez par hasard ce soir chez lui ?»« Oui, » me répondit-il, « quoique je me trouve bien fatigué. Mais il m'a envoyé un pneumatique pour me prévenir qu'il avait quelque chose à me dire. » Je sens que je serai trop souffrant ces jours-ci pour y aller ou pour le recevoir. Cela m'agitera. J'aime mieux être débarrassé tout de suite de cela. » « Mais le duc de Guermantes n'est pas antisémite. » « Vous voyez bien que si, puisqu'il est anti-Dreyfusard, » me répondit Swann, sans s'apercevoir qu'il faisait une pétition de principe. « Cela n'empêche pas que je suis peiné d'avoir déçu cet homme. » Que dis-je, ce duc, en n'admirant pas son prétendu Mignard, je ne sais quoi. Mais enfin, repris-je en revenant à l'affaire Dreyfus, la duchesse, elle est intelligente. Oui, elle est charmante, À mon avis, du reste, elle l'a été encore davantage quand elle s'appelait encore la princesse des Laumes. Son esprit a pris quelque chose de plus anguleux. Tout cela était plus tendre dans la grande dame juvénile. Mais enfin, plus ou moins jeunes, hommes ou femmes, qu'est-ce que vous voulez? Tous ces gens-là sont d'une autre race. On n'a pas impunément 1000 ans de féodalité dans le sang. Naturellement, ils croient que cela n'est pour rien dans leur opinion. Mais Robert de Saint-Loup, pourtant, est Dreyfusard. Ah, tant mieux. D'autant plus que vous savez que sa mère est très contre. On m'avait dit qu'il l'était, mais je n'en étais pas sûre. Cela me fait grand plaisir. Cela ne m'étonne pas, il est très intelligent. C'est beaucoup, cela. Le dreyfusisme avait rendu Swann d'une naïveté extraordinaire et donné à sa façon de voir une impulsion, un déraillement, plus notables encore que n'avait fait autrefois son mariage avec Odette. Ce nouveau déclassement eût été mieux appelé « reclassement » et n'était qu'honorable pour lui, puisqu'il le faisait rentrer dans la voie par laquelle étaient venus les siens et d'où l'avaient dévié ses fréquentations aristocratiques. Mais Swann, précisément au moment même où, si lucide, il lui était donné, grâce aux données héritées de son ascendance, de voir une vérité encore cachée aux gens du monde, se montrait pourtant d'un aveuglement comique. Il remettait toutes ses admirations et tous ses dédains à l'épreuve d'un critérium nouveau, le dreyfusisme. Que l'anti-dreyfusisme de Madame Bontemps la lui fit trouver bête n'était pas plus étonnant que, quand ils s'étaient mariés, il l'eût trouvée intelligente. Il n'était pas bien grave non plus que la vague nouvelle atteignît aussi en lui les jugements politiques et lui fit perdre le souvenir d'avoir traité d'homme d'argent, d'espion de l'Angleterre, c'était une absurdité du milieu guermantes, Clémenceau, qu'il déclarait maintenant avoir tenu toujours pour une conscience, un homme de fer, comme Cornélie. « Non, je ne vous ai jamais dit autrement, vous confondez. » Mais, dépassant les jugements politiques, la vague renversait chez Swann les jugements littéraires et jusqu'à la façon de les exprimer. Barrès avait perdu tout talent et même ses ouvrages de jeunesse étaient faiblards, pouvaient à peine se relire. « Essayez, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Quelle différence avec Clémenceau !» Personnellement, je ne suis pas anticlérical, mais comme à côté de lui, on se rend compte que Barrès n'a pas d'eau. C'est un très grand bonhomme que le père Clémenceau, comme il sait sa langue. D'ailleurs, les anti-dreyfusards n'auraient pas été en droit de critiquer ses folies. Ils expliquaient qu'on fût dreyfusiste parce qu'on était d'origine juive. Si un catholique pratiquant comme sa niette tenait aussi pour la révision, c'était qu'il était chambré par Madame Verdurin, laquelle agissait en farouche radicale. Elle était avant tout contre les calotins. Sa niette était plus bête que méchant et ne savait pas le tort que la patronne lui faisait. Que si l'on objectait que Brichot était tout aussi ami de Madame Verdurin et était membre de la patrie française, c'est qu'il était plus intelligent. Vous le voyez quelquefois ? Dis-je à Swann en parlant de Saint-Loup. Non, jamais. Il m'a écrit l'autre jour pour que je demande au duc de Mouchy et à quelques autres de voter pour lui au jockey, où il a du reste passé comme une lettre à la poste. Malgré l'affaire ? On n'a pas soulevé la question. Du reste, je vous dirai que, depuis tout ça, je ne mets plus les pieds dans cet endroit. Monsieur de Guermantes rentra, et bientôt sa femme, toute prête, haute et superbe, dans une robe de satin rouge, dont la jupe était bordée de paillettes. Elle avait dans les cheveux une grande plume d'autruche, teinte de pourpre, et sur les épaules une écharpe de tulle du même rouge. « Comme c'est bien de faire doubler son chapeau de verre !» dit la duchesse à qui rien n'échappait. « D'ailleurs, en vous, Charles, tout est joli, aussi bien ce que vous portez que ce que vous dites, ce que vous lisez et ce que vous faites. »
Swann, cependant, sans avoir l'air d'entendre, considérait la duchesse comme il eût fait d'une toile de maître, et chercha ensuite son regard en faisant avec la bouche la moue qui veut dire « bigre ».
Madame de Guermantes éclata de rire. « Ma toilette vous plaît, je suis ravie, mais je dois dire qu'elle ne me plaît pas beaucoup, » continua-t-elle d'un air maussade. « Mon Dieu, que c'est ennuyeux de s'habiller, de sortir quand on aimerait tant rester chez soi. »«
Quel magnifique rubis !»«
Ah, mon petit Charles, au moins on voit que vous vous y connaissez. Vous n'êtes pas comme cette brute de Beaucerfeuil qui me demandait s'ils étaient vrais. Je dois dire que je n'en ai jamais vu d'aussi beaux. C'est un cadeau de la grande duchesse. Pour mon goût, ils sont un peu gros. » Un peu vert à Bordeaux, plein jusqu'au bord. Mais je les ai mis parce que nous verrons ce soir la grande duchesse chez Marie-Gilbert. »
Ajouta madame de Guermantes, sans se douter que cette affirmation détruisait celle du duc.
« Qu'est-ce qu'il y a chez la princesse ?» demanda Swann.
« Presque rien !» se hâta de répondre le duc, à qui la question de Swann avait fait croire qu'il n'était pas invité.
« Comment, Bazin? C'est-à-dire que tout le banc et l'arrière-banc sont convoqués. Ce sera une tuerie à s'assommer. »«
Ce qui sera joli, » ajouta-t-elle en regardant Swann d'un air délicat. « Si l'orage qu'il y a dans l'air n'éclate pas, ce sont ces merveilleux jardins. Vous les connaissez? J'ai été là-bas il y a un mois, au moment où les lilas étaient en fleurs. On ne peut pas se faire une idée de ce que ça pouvait être beau. » « Et puis le jet d'eau, enfin, c'est vraiment Versailles dans Paris. »«
Quel genre de femme est la princesse ?» demandai-je.
« Mais vous savez déjà, puisque vous l'avez vue ici, qu'elle est belle comme le jour, qu'elle est aussi un peu idiote, très gentille malgré toute sa hauteur germanique, pleine de cœur et de gaffe. »
Swann était trop fin pour ne pas voir que madame de Guermantes cherchait en ce moment à faire de l'esprit Guermantes, et sans grand frais, car elle ne faisait que resservir sous une forme moins parfaite d'anciens mots d'elle. Néanmoins, pour prouver à la duchesse qu'il comprenait son intention d'être drôle, et comme si elle l'avait réellement été, il sourit d'un air un peu forcé, me causant, par ce genre particulier d'insincérité, la même gêne que j'avais autrefois à entendre mes parents parler avec M. Vinteuil de la corruption de certains milieux, alors qu'ils savaient très bien qu'était plus grande celle qui régnait à Montjouvain. Le grandin nuançait son débit pour des sots, choisir des épithètes délicates qu'il savait parfaitement ne pouvoir être comprises d'un public riche ou chic. Mais il est très.
Voyons, Oriane, qu'est-ce que vous dites ? Dit monsieur de Guermantes. Marie, bête ? Elle a tout lu, elle est musicienne comme le violon.
Mais, mon pauvre petit Bazin, vous êtes un enfant qui vient de naître, comme si on ne pouvait pas être tout ça et un peu idiote.
Idiote et du reste exagérée. Non, elle est nébuleuse. Elle est... S. Darmstadt, Saint-Empire et Gnangnan. Rien que sa prononciation m'énerve, mais je reconnais du reste que c'est une charmante loufoque. D'abord, cette seule idée d'être descendue de son trône allemand pour venir épouser bien bourgeoisement un simple particulier, il est vrai qu'elle l'a choisi.
Ah, mais c'est vrai, dit-elle en se tournant vers moi. Vous ne connaissez pas Gilbert? Je vais vous en donner une idée. Il a autrefois pris le lit parce que j'avais mis une carte à madame Carnot.
Mais, mon petit Charles, dit la duchesse pour changer de conversation, voyant que l'histoire de sa carte à madame Carnot paraissait courroucer monsieur de Guermantes.
Vous savez que vous n'avez pas envoyé la photographie de nos chevaliers de Rhodes, que j'aime par vous et avec qui j'ai si envie de faire connaissance.
Le duc, cependant, n'avait pas cessé de regarder sa femme fixement. « Oriane, il faudrait au moins raconter la vérité et ne pas en manger la moitié. Il faut dire, rectifia-t-il en s'adressant à Swann, que l'ambassadrice d'Angleterre de ce moment-là, qui était une très bonne femme, mais qui vivait un peu dans la lune et qui était coutumière de ce genre d'impair, avait eu l'idée assez baroque de nous inviter avec le président et sa femme. Nous avons été, même Oriane, assez surpris, d'autant plus que l'ambassadrice connaissait assez les mêmes personnes que nous pour ne pas nous inviter justement à une réunion aussi étrange. Il y avait un ministre qui a volé. Enfin, je passe l'éponge. Nous n'avions pas été prévenus, nous étions pris au piège. Et il faut du reste reconnaître que tous ces gens ont été fort polis. Seulement, c'était déjà bien comme ça. Madame de Guermantes, qui ne me fait pas souvent l'honneur de me consulter, a cru devoir aller mettre une carte dans la semaine à l'Élysée. Gilbert a peut-être été un peu loin en voyant là comme une tache sur son nom. Mais il ne faut pas oublier que, politique mise à part, M. Carnot, qui tenait du reste très convenablement sa place, était le petit-fils d'un membre du tribunal révolutionnaire qui a fait périr en un jour 11 des nôtres. Alors, Bazin, pourquoi alliez-vous dîner toutes les semaines à Chantilly ? Le duc d'Aumale n'était pas moins petit-fils d'un membre du tribunal révolutionnaire, avec cette différence que Carnot était un brave homme et Philippe Égalité une affreuse canaille. Je m'excuse d'interrompre pour vous dire que j'ai envoyé la photographie, dit Swann. Je ne comprends pas qu'on ne vous l'ait pas donnée.
Ça ne m'étonne qu'à moitié, dit la duchesse.
Mes domestiques ne me disent que ce qu'ils jugent à propos. Ils n'aiment probablement pas l'ordre de Saint-Jean. » Et elle sonna.
« Vous savez, Oriane, que quand j'allais dîner à Chantilly, c'était sans enthousiasme. »«
Sans enthousiasme, mais avec chemise de nuit, pour si le prince vous demandait de rester à coucher. Ce qu'il faisait d'ailleurs rarement, en parfait mufle qu'il était, comme tous les Orléans. « Savez-vous avec qui nous dînons chez Madame de Sainte-Verte ?» demanda Madame de Guermantes à son mari.
« En dehors des convives que vous savez, il y aura, invité de la dernière heure, le frère du roi Théodose. »
À cette nouvelle, les traits de la duchesse respirèrent le contentement et ses paroles l'ennui. « Ah, mon Dieu, encore des princes !»«
Mais celui-là... « est gentil et intelligent, » dit Swann.
« Mais tout de même pas complètement, » répondit la duchesse en ayant l'air de chercher ses mots pour donner plus de nouveauté à sa pensée. « Avez-vous remarqué parmi les princes que les plus gentils ne le sont pas tout à fait ? Mais si, je vous assure, il faut toujours qu'ils aient une opinion sur tout. Alors, comme ils n'en ont aucune, ils passent la première partie de leur vie à nous demander les nôtres et la seconde à nous les resservir. Il faut absolument qu'ils disent que ceci a été bien joué, que cela a été moins bien joué. Il n'y a aucune différence. Tenez, ce petit Théodose Cadet, je ne me rappelle pas son nom, m'a demandé comment ça s'appelait un motif d'orchestre. Je lui ai répondu. Dit la duchesse, les yeux brillants et en éclatant de rire de ses belles lèvres rouges. « Ça s'appelle un motif d'orchestre !»« Eh bien, dans le fond, il n'était pas content. »« Ah, mon petit Charles !» reprit Madame de Guermantes. « Ce que ça peut être ennuyeux de dîner en ville. Il y a des soirs où on aimerait mieux mourir. Il est vrai que de mourir, c'est peut-être tout aussi ennuyeux, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. » Un laquais parut. C'était le jeune fiancé qui avait eu des raisons avec le concierge, jusqu'à ce que la duchesse, dans sa bonté, eût mis entre eux une paix apparente. « Est-ce que je devrais prendre ce soir des nouvelles de monsieur le marquis d'Osmond ? » demanda-t-il.
« Mais jamais de la vie, rien avant demain matin. Je ne veux même pas que vous restiez ici ce soir. » Son valet de pied que vous connaissez... n'aurait qu'à venir vous donner des nouvelles et vous dire d'aller nous chercher. Sortez,
Allez où vous voudrez, faites la noce, découchez, mais je ne veux pas de vous ici avant demain matin. » Une joie immense déborda du visage du valet de pied. Il allait enfin pouvoir passer de longues heures avec sa promise, qu'il ne pouvait quasiment plus voir, depuis qu'à la suite d'une nouvelle scène avec le concierge, la duchesse lui avait gentiment expliqué qu'il valait mieux ne plus sortir pour éviter de nouveaux conflits. Il nageait, à la pensée d'avoir enfin sa soirée libre, dans un bonheur que la duchesse remarqua et comprit. Elle éprouva comme un serrement de cœur et une démangeaison de tous les membres à la vue de ce bonheur, qu'on prenait à son insu, en se cachant d'elle, duquel elle était irritée et jalouse. « Non, Bazin, qu'il reste ici, qu'il ne bouge pas de la maison, au contraire. » « Mais Oriane, c'est absurde, tout votre monde est là. Vous aurez en plus, à minuit, l'habilleuse et le costumier pour notre redoute. Il ne peut servir à rien du tout. Et comme seul, il est ami avec le valet de pied de Mama, j'aime mille fois mieux l'expédier loin d'ici. » « Écoutez, Bazin, laissez-moi. J'aurai justement quelque chose à lui faire dire dans la soirée. Je ne sais au juste à quelle heure. Ne bougez surtout pas d'ici d'une minute, » dit-elle au valet de pied désespéré. Et s'il y avait tout le temps des querelles, et si on restait peu chez la duchesse, la personne à qui il fallait attribuer cette guerre constante était bien inamovible, mais ce n'était pas le concierge. Sans doute, pour le gros ouvrage, pour les martyrs plus fatigants à infliger, pour les querelles qui finissent par des coups, la duchesse lui en confiait les lourds instruments. D'ailleurs, jouait-il son rôle sans soupçonner qu'on le lui eût confié? Comme les domestiques, il admirait la bonté de la duchesse, et les valets de pied peu clairvoyants venaient, après leur départ, revoir souvent Françoise, en disant que la maison du duc aurait été la meilleure place de Paris s'il n'y avait pas eu la loge. La duchesse jouait de la loge comme on joua longtemps du cléricalisme, de la franc-maçonnerie, du péril juif, etc. Un valet de pied entra. « Pourquoi ne m'a-t-on pas monté le paquet que M. Swann a fait porter ?»« Mais à ce propos, vous savez que maman est très malade, Charles. Jules, qui était allé prendre des nouvelles de M. le marquis d'Osmond, est-il revenu ?»« Il arrive à l'instant, M. le duc. On s'attend d'un moment à l'autre à ce que M. le marquis ne passe. »« Ah, il est vivant !» s'écria le duc avec un soupir de soulagement. On s'attend, Satan vous-même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, » nous dit le duc d'un air joyeux. On me le peignait déjà comme mort et enterré. Dans 8 jours, il sera plus gaillard que moi. Ce sont les médecins qui ont dit qu'il ne passerait pas la soirée. L'un voulait revenir dans la nuit. Leur chef a dit que c'était inutile. Monsieur le marquis devrait être mort. Il n'a survécu que grâce à des lavements d'huile camphrée. « Taisez-vous, espèce d'idiot !» cria le duc au comble de la colère. « Qu'est-ce qui vous demande tout ça? Vous n'avez rien compris à ce qu'on vous a dit. » « Ce n'est pas à moi, c'est à Jules. »« Allez-vous vous taire !» hurla le duc. Et se tournant vers Swann, « Quel bonheur qu'il soit vivant! Il va reprendre des forces peu à peu. » Il est vivant après une crise pareille. C'est déjà une excellente chose. On ne peut pas tout demander à la fois. Ça ne doit pas être désagréable, un petit lavement d'huile camphrée. » Et le duc, se frottant les mains. « Il est vivant. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Après avoir passé par où il a passé, c'est déjà bien beau. Il est même à envier d'avoir un tempérament pareil. Ah, les malades, on a pour des petits soins qu'on ne prend pas pour nous. Il y a ce matin un bougre de cuisinier qui m'a fait un gigot à la sauce béarnaise, réussi à merveille, je le reconnais. Mais justement à cause de cela, j'en ai tant pris que je l'ai encore sur l'estomac. Cela n'empêche qu'on ne viendra pas prendre de mes nouvelles, comme de mon cher Amanien. On en prend même trop, cela le fatigue, il faut le laisser souffler. On le tue, cet homme, en envoyant tout le temps chez lui. « Eh bien, dit la duchesse au valet de pied qui se retirait. « J'avais demandé qu'on montât la photographie enveloppée que m'a envoyée M. Swann. » « Madame la duchesse, c'est si grand que je ne savais pas si ça passerait devant la porte. Nous l'avons laissé dans le vestibule. Est-ce que madame la duchesse veut que je le monte ?»« Eh bien, non, mais on aurait dû me le dire. Même si c'est grand, je le verrai tout à l'heure en descendant. » « J'ai aussi oublié de dire à madame la duchesse que madame la comtesse Molé avait laissé ce matin une carte pour madame la duchesse. »«
Comment ? Ce matin ?»
dit la duchesse d'un air mécontent et trouvant qu'une si jeune femme ne pouvait pas se permettre de laisser des cartes le matin. « Vers 10 heures, madame la duchesse. Montrez-moi ces cartes. »
« En tout cas, Oriane, quand vous dites que Marie a eu une drôle d'idée d'épouser Gilbert, » reprit le duc, qui revenait à sa conversation première, « c'est vous qui avez une singulière façon d'écrire l'histoire. Si quelqu'un a été bête dans ce mariage, c'est Gilbert d'avoir justement épousé une si proche parente du roi des Belges, qui a usurpé le nom de Brabant qui est à nous. En un mot, nous sommes du même sang que les Hesse, et de la branche aînée. C'est toujours stupide de parler de soi, » dit-il en s'adressant à moi. Mais enfin, quand nous sommes allés non seulement à Darmstadt, mais même à Cassel, et sans toute la Hesse électorale, les Landgraves ont toujours tous aimablement affecté de nous céder le pas et la première place, comme étant de la branche aînée. « Mais enfin, Bazin, vous ne me raconterez pas que cette personne qui était major de tous les régiments de son pays, confiançait au roi de Suède... »« Oh, rien, c'est trop fort. On dirait que vous ne savez pas que le grand-père du roi de Suède cultivait la terre à Pau, quand depuis 900 ans nous tenions le haut du pavé dans toute l'Europe. » « Ça m'empêche pas que, si on disait dans la rue, « Tiens, voilà le roi de Suède !» Tout le monde courait pour le voir jusque sur la place de la Concorde, et si on dit « Voilà monsieur de Guermantes », personne ne sait qui c'est. Voilà une raison. Du reste, je ne peux pas comprendre comment, du moment que le titre de duc de Brabant est passé dans la famille royale de Belgique, vous pouvez y prétendre.